Eh bien, le bonjour à tous les auditrices et les auditeurs de RSA Radio Sofia Attitude au 88.501 FM. Comment allez-vous tous en ce samedi 26 avril? Et oui, c'est le dernier samedi du mois, que le temps passe vite. En effet, ça passe très très vite le temps, de plus en plus. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Voilà, je suis Chris de l'émission Bien-être en mots. On commence à se connaître maintenant depuis quelques mois. Et aujourd'hui, eh bien, je suis très contente parce que je reçois le docteur André Atala, qui est donc cardiologue sur Basse-Terre, qui est donc une personne de renommée, bien sûr, connue notamment pour toutes les prestations qu'il effectue. Il est aussi maire de Basse-Terre, hein, bien entendu. Et donc, le docteur Atala est ici présent, mais au téléphone, hein, pas présent ici dans notre studio. Nous allons aborder, bien entendu, ensemble la journée mondiale de l'hypertension artérielle, parce qu'il va effectivement effectuer une conférence publique sur l'hypertension là au mois de mai, mais on y reviendra, hein, bien entendu. Et puis il abordera aussi son livre, un livre qu'il a écrit, Bouger, c'est bon pour la santé. Donc il va nous expliquer tout ça. Et eh bien, écoutez, on va donc demander à ce qu'il intervienne dès maintenant. Bonjour docteur Atala, comment
Bonjour Chris, bonjour Radio Sofia et bonjour aux auditeurs, ça va, je suis malheureusement pas sur place, mais je suis disponible pour répondre à toutes vos questions sur cette thématique ô combien importante qui est l'hypertension artérielle. On a tendance un peu à l'oublier, mais ça reste un vrai facteur de risque cardiovasculaire à prendre au sérieux.
Oui, tout à fait. Alors, effectivement, nous on est vraiment contents du coup, hein, le studio, de vous recevoir pour pouvoir échanger sur un sujet qui est essentiel, hein, sur l'équilibre, l'hygiène de vie, parce qu'aujourd'hui, dans ce que j'ai cru comprendre, hein, docteur, on a de plus en plus, malheureusement, de personnes qui sont atteintes de cette maladie. On peut appeler ça une maladie ?
Oui, c'est une maladie. C'est un facteur de risque cardiovasculaire. Vous savez, on a tous des artères qui, à 20 ans, commencent à vieillir. Mm-hmm. Et plus on fatigue ces artères, malheureusement, et le mode de vie intervient beaucoup, plus on a le risque, à l'âge adulte, d'avoir un problème de santé, un infarctus, un accident vasculaire cérébral et tout. Et donc, le fait de se prendre en charge, et l'hypertension, il y a des recommandations, il y a des conseils, et donc le patient, la personne, doit être avant tout, je dirais, partenaire de sa prise en charge, et elle peut énormément influencer sur, je dirais, sa santé et sur la prise en charge de ce facteur de risque qu'on appelle l'hypertension artérielle, parce qu'on sait comment la traiter, on sait quels sont les conseils qu'il faut mettre en place, mais il faut que le patient, et donc votre émission est importante parce que il y a ces conseils qu'il faut mettre en pratique. Souvent je le dis, les déterminants de santé, qu'est-ce qui fait que demain vous serez en bonne santé? Bien sûr, avoir un bon médecin, c'est important, avoir une bonne couverture sociale, c'est important, mais souvent quand je fais des conférences, ça surprend les gens, 70% des déterminants de santé, ça va être comment la personne se comporte, comment elle mange, comment elle bouge, est-ce qu'elle fume, est-ce qu'elle mange gras, est-ce qu'elle comment elle respire. Oui. Donc 70% des déterminants de santé, c'est l'individu lui-même qui va influer sur sa santé, plus que le médecin, plus que le système de couverture sociale.
Oui, et c'est très important ce que vous notez là, docteur, parce que c'est vrai qu'on se doit aujourd'hui d'être conscient, d'être acteur de sa santé, hein, dans ce que je comprends, ce qui n'est pas une chose simple. Hein. On a du mal souvent à se raisonner quand il s'agit notamment de l'alimentation, parce qu'il s'agit de ça là aujourd'hui, par rapport à l'hypertension, le diabète, etc. Aujourd'hui, on a notre cerveau qui est peut-être pas câblé, enfin qui est câblé pour le plaisir immédiat, par exemple. Ce sont des notions, l'effort aussi paraît lointain et abstrait par rapport à des choses que l'on doit mettre en place. Le stress, c'est tout plein de facteurs qui font qu'aujourd'hui, c'est pas si facile que ça. Qu'est-ce que vous en pensez, docteur ?
Oui, tout à fait. Le mode de vie aussi a beaucoup changé. Et l'individu, hein, je le dis dans mon livre, il a été conçu pour bouger. L'être humain, est, il est conçu pour bouger. Mmh. La génétique n'a pas été modifiée par rapport à notre aïeul il y a très très longtemps. Et notre aïeul, il y a très longtemps, ben, pour manger, il fallait qu'il fasse des kilomètres, il fallait qu'il aille chasser. C'est un chasseur, il fallait qu'il... voilà. Et actuellement, ben, il suffit d'ouvrir le frigo, on a à manger. Ben et voilà. La génétique n'a pas changé. Donc, on est conçu pour pouvoir bouger. Et on peut tout à fait, tout en ayant, je dirais, ben on est pris sur le plan social, sur le plan professionnel, on peut s'organiser pour pouvoir, par exemple, sur le plan d'activité physique, faire ce minimum d'activité physique que j'appelle le SMIC, hein, le sport minimum indispensable aux gens, c'est un peu ma devise.
D'accord.
Pour pouvoir protéger ses artères. Et là, effectivement, il y a des conseils qui sont simples, hein, on le dit dans le petit livre qu'on a rédigé, que j'ai mis en place. Mais voilà, ce type d'émission est important. Alors, on le voit, lorsque malheureusement, quelqu'un s'est négligé, il se retrouve en rééducation cardiaque chez nous, hein, au CHPT, après un accident cardiaque, après un infarctus, après un pontage des coronaires. On se rend compte qu'à ce moment-là, la personne prend conscience et on fait de la prévention secondaire, voire tertiaire,
oui.
Et la personne prend conscience pendant 20 jours, elle est prise en rééducation.
Oui.
Ben, c'est dommage d'en arriver là, ça serait bien de faire de la prévention primaire, voire
oui.
même les spécialistes, voilà, les épidémiologistes parlent de prévention primordiale, même à l'école, ça commence aussi à la petite enfance,
oui.
commencer à adopter un mode de vie qui fait qu'on préserve sa santé. Avant que l'accident cardiaque n'arrive, malheureusement.
Tout à fait. Souvent, ces événements-là arrivent un peu tard. Hein, c'est-à-dire qu'on prend conscience que, ben, on a un corps, on a des émotions, on a aussi cet état d'esprit qui fait que si on ne le travaille pas, tout ça, ben, à un moment donné, ça a un impact sur le physique. Hein. On est bien d'accord, hein ?
Tout à fait. Tout à
fait. Oui, oui, oui. Et donc, qu'est-ce que vous pouvez conseiller justement à tous les auditeurs et auditrices qui nous écoutent là ? Des petits conseils peut-être par rapport au quotidien, à l'hygiène de vie, dites-nous.
Alors, concernant la maladie du siècle actuellement, ça s'appelle l'athérosclérose, l'athérome. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, à partir de 20 ans, vous allez avoir une artère qui va vieillir.
Mmh.
Elle va vieillir plus ou moins rapidement selon votre mode de vie. Voilà. C'est votre mode de vie qui fait que vous allez protéger vos artères. Et c'est fondamental, les artères, parce que quand une artère se bouche au cerveau, ben, c'est l'accident vasculaire cérébral.
Oui.
Quand c'est le rein, ben, c'est l'insuffisance rénale. Et quand c'est le cœur, c'est l'infarctus, l'insuffisance cardiaque.
Oui.
Et quoi faire ? Que c'est comme, je vois parfois un exemple un peu simpliste, hein, un tuyau de machine à laver. Si vous mettez un mauvais produit, ça va encrasser votre tuyau de machine à laver et puis ça va, et voilà, il ne va pas durer longtemps.
Mm-hmm.
Et donc, ce sont ces fameux facteurs de risque. Souvent, on entend à la télé, à la radio dire, oh là là, il avait 38 ans, 40 ans, il a fait un infarctus. 38 ans, il a fait une mort subite, 50 ans, c'est jeune.
Oui.
Mais sur sa carte d'identité, hein, c'est marqué 50 ans, il est né il y a 50 ans. Mais quand on examine ses artères, ces artères n'ont pas 50 ans. Ces artères ont 20 ans de plus.
Ah
pourquoi
oui.
À cause du mode de vie, à cause de ces facteurs de risque négligés. Donc faisons en sorte d'avoir à 50 ans des artères qui ont 50 ans et non pas 20 ans de plus.
Oui.
Et les facteurs de risque cardiovasculaire, quels sont-ils ? C'est avant tout et surtout l'hypertension artérielle. L'hypertension artérielle reste un sujet d'actualité. Malheureusement, on en parle de moins en moins parce que ça devient banal.
Mmh.
C'est le principal facteur de risque cardiovasculaire en Guadeloupe. Mais pas qu'en Guadeloupe, dans l'Hexagone aussi, vous avez 25 à 30% des adultes qui sont hypertendus. C'est
d'accord.
le premier facteur de risque.
Oui.
Ensuite, il y a le diabète, 10%, il y a le tabac, il y a la sédentarité, ça c'est vraiment mon combat depuis des décennies, l'obésité, le stress, le mauvais cholestérol. Tous ces facteurs de risque, quand ils s'accumulent, vont venir encraster votre artère et malheureusement, la faire vieillir beaucoup plus vite, avec le risque d'un accident cardiaque. Et là-dessus, on peut, par notre mode de vie, on peut agir. La cigarette, ben, si on fait l'effort de commencer à diminuer, d'aller à une consultation tabaco et de ne pas fumer, on a enlevé un facteur de risque.
Mmh.
Le mauvais cholestérol, ben, il y a des conseils diététiques, et si vraiment ça ne suffit pas, il y a un petit traitement à prendre, ça va faire en sorte que votre mauvais cholestérol va baisser et ça va protéger vos artères.
Mmh.
Le diabète, on a des conseils, on a des spécialistes pour ça, il y a un mode de vie à adopter, et parfois il y a besoin du traitement. Et puis surtout, la sédentarité, alors ça c'est extraordinaire, parce que la sédentarité est un facteur de risque, au même titre que les autres. Je vous ai dit qu'il y avait plusieurs facteurs de risque,
oui.
donc ne pas bouger pour la santé, très bien, mais le fait de Marté, le fait de faire de l'activité physique, pas de sport, de l'activité physique, et ça on peut s'organiser pour faire une petite demi-heure de marche par jour, mais de manière très simple, hein. Ne prenez pas l'ascenseur, garer la voiture un peu plus loin, un peu de faire le ménage, genre, tout ça c'est de l'activité physique. Non seulement en faisant de l'activité physique régulièrement, vous allez supprimer ce facteur de risque qu'on appelle la sédentarité, mais c'est là où c'est magique, c'est que l'activité physique va retentir sur les autres facteurs de risque que je viens de vous citer. C'est-à-dire que quelqu'un qui bouge régulièrement va voir sa tension artérielle s'améliorer. Quelqu'un qui bouge régulièrement aura tendance à moins fumer. Quelqu'un qui bouge régulièrement va avoir son bon cholestérol qui augmente et le mauvais qui diminue. Quelqu'un qui bouge régulièrement va avoir ses chiffres, le sucre qui va baisser et donc améliorer son diabète. Il va peut-être aussi perdre du poids s'il est obèse. Donc, l'effet magique de l'activité physique, c'est quoi ? C'est que en faisant de l'activité physique, je supprime ou je diminue un facteur de risque qui s'appelle la sédentarité, mais boule de neige, ça retentit également sur les autres facteurs de risque. C'est pour ça qu'il faut vraiment sensibiliser les personnes à faire de l'activité physique, et ça dès le jeune âge, à l'école, et depuis les Jeux Olympiques, il y a eu la grande cause nationale en 2024 qui est inciter les gens à faire de l'activité physique, et moi j'étais le référent pour la Guadeloupe de cette grande cause nationale qu'on appelle les bienfaits de l'activité physique. D'accord. Et on a comme projet de mettre dans toutes les écoles, on va essayer par Bastère mais aussi les autres communes, de faire minimum une demi-heure d'activité physique à l'école, dans toutes les écoles, en dehors du jour qui est réservé effectivement au sport à l'école, ce qu'on appelle le PS.
Oui. Mais finalement, quand j'entends, quand j'entends tout ça, on a tout intérêt, effectivement, du coup, à bouger, à essayer de mettre en place, je dirais comme une habitude, une habitude de vie, parce que c'est tellement puissant, quand vous nous expliquez un petit peu ce que ça peut apporter, le fait de faire ne serait-ce que 30 minutes d'activité, mais finalement, c'est rien dans une journée de 30 minutes. Et moi, je trouve ça génial de vraiment repréciser, et tout petit, expliquer à nos jeunes, parce que souvent, nos jeunes sont soit devant les écrans, devant leur téléphone, les PC, etc. Ils ne bougent plus autant. Je ne sais pas ce que vous en pensez, docteur.
Alors, il y a aussi, alors on dit l'école, les parents ont aussi un rôle à jouer.
Ah oui.
Quand vous voyez des parents qui se retrouvent à la plage, il y a des images comme ça, à la maison, ils sont tous sur le portable. L'enfant, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va prendre sa tablette et il va se mettre à jouer. Vous avez parfois les parents, et ça c'est important, qui disent allez, tu es trop turbulent là, tu nous embêtes, va dehors, va bouger. L'enfant, il va le percevoir comme une punition. Il n'a pas été sage, il est en train d'être un peu turbulent dans la maison. Tu m'embêtes, va dehors, va bouger. Et donc, ça apparaît comme une punition. Parfois, le papa ou la maman qui dit, écoute, c'est bon, on a assez regardé là, la télé, on a assez joué sur les jeux électriques, là, tout ça, on va aller se faire une petite balade. On va y aller ensemble. Ou le papy qui accompagne son petit enfant. Donc, ça c'est perçu par l'enfant comme un moment de symbiose, un moment de bonheur, un moment bénéfique.
De partage.
On va parler, on va marcher. Et donc, ce n'est pas la punition. Allez, tu es tout turbulent, sors dehors, va bouger, etc. Et tout. Et ça, c'est ça. Le parent doit aussi donner l'exemple et faire en sorte que l'enfant trouve plaisir à faire de l'activité physique, parce que le mode de vie a vachement changé.
Bien sûr.
Bon, combien d'enfants actuellement, moi, quand j'étais gosse, il n'y a pas grand-chose à faire, on n'avait pas tous ces jeux électriques et tout ça électronique. On allait à la rivière, on allait prendre des bains à la rivière. Combien d'enfants maintenant connaissent ce que c'est la rivière, comment on va prendre un bain à la rivière et tout, ça c'est, voilà. Et donc, à l'époque, on ne va pas faire non plus de la nostalgie, mais beaucoup de personnes de certain âge vous disent, mais pour aller à l'école, j'allais à pied, il n'y a pas tous les moyens de transport, et donc une demi-heure pour y aller, 20 minutes pour revenir, et les personnes avaient déjà fait ce minimum d'activité physique, déjà bénéfique pour protéger son artère, comme ça, dans les gestes de tous les jours. Et donc, pour qu'on ait ce réflexe, on ne va pas refuser le modernisme, mais c'est comme ça, maintenant c'est Internet et autres, mais on n'est pas obligé de prendre l'ascenseur, pas qu'il y a un ascenseur. Moi, je me suis amusé, là, quand j'étais en région, à l'époque, j'allais monter au troisième étage, voyez tout le monde prendre l'ascenseur, attendre, j'ai mis une affiche, ascenseur en panne. Tout le monde y a cru, tout le monde se mettait à monter l'escalier, finalement, on s'est mis à bouger, etc. Et tout. Alors, il y a des applications sur les téléphones très simples, qui vous disent à la fin de la journée combien de pas vous avez fait, combien de temps vous avez marché.
Effectivement.
Ou sinon, il y a des petits podomètres, je vais d'ailleurs offrir les prochaines cadeaux, on croit, à tout le personnel. Un podomètre, c'est un petit truc que vous mettez sur votre ceinture, vous appuyez le matin, vous mettez zéro, donc vous le mettez à zéro, et puis au moment d'aller vous coucher le soir, vous voyez à combien vous êtes.
D'accord.
Si vous avez accompli ce minimum d'activité physique bénéfique pour votre santé, vous dites je suis satisfait ou sinon demain il faut que je me rattrape. Ça, oui. C'est une espèce de pense bête en disant on avait bien dit voilà l'équivalent de 3 repas par jour, on avait dit l'équivalent d'une demi-heure par jour, on n'a pas fait aujourd'hui, ben demain il faudrait essayer de faire plus. On ne parle pas de faire du sport, partir en tenue. Dans les gestes de tous les jours, on peut déjà, parce qu'il y a parfois des gens qui disent, et ce qui est important en termes de santé, c'est important à passer comme message, c'est régulièrement qu'il faut le faire. Quand on dit faire une demi-heure par jour, il y en a qui vous disent, je suis trop pris en semaine. Par contre, le dimanche, je vais aller faire 3h30 de rando. C'est bien, mais sur le plan, alors on n'aura pas le temps de l'expliquer sur le plan de la physiologie, sur le plan de la protection cardiovasculaire, il faut essayer de faire cette activité physique tous les jours ou, si possible, un jour sur deux.
Oui.
Et ne pas tout regrouper en une seule séance. Ça, on n'a pas le temps de l'expliquer, mais sur le plan de la physiologie des artères, pour les protéger, il ne faut pas rester 6 jours à ne pas bouger, bouger 6 jours. Et une fois, j'étais en conférence avec le grand professeur Carré, qui est un peu mon correspondant à l'Hexagone, il est aussi très investi sur la partie activité physique. C'est lui qui d'ailleurs fait la préface de mon livre. Voilà, lorsqu'on faisait la conférence, on était ensemble à Guyane pour un congrès sur le sport et santé. Il y a un monsieur qui dit, monsieur le professeur Carré, j'ai bien compris, il faut faire une demi-heure par jour, j'ai la solution. Moi, je ne peux pas, parce que je suis très pris, je suis PDG, j'ai pas le temps de bouger en semaine. Par contre, le dimanche, je vais marcher 3 heures. Donc ça fait 6 fois une demi-heure, voilà, et je marche 3 heures. Alors, il s'est un peu énervé pour se voir carré, je me rappelle de cette angle. Il dit, écoutez, le matin, quand vous vous levez, vous brossez les dents tous les matins.
Ben oui.
Très bien. Alors, vous n'allez pas rester 6 jours sans vous brosser les dents, et vous brossez les dents 7 fois le dimanche en disant, ça y est, je me suis brossé les dents 7 fois, ça fait 7 jours. Non. C'est tous les jours, ou si possible, tous les 2 jours, qu'il faut essayer de faire l'activité physique, même dans les gestes de tous les jours, et ça, c'est tout à fait possible.
Oui, oui, oui. Eh bien, c'est génial, ce que vous dites, parce que c'est vrai que ça nous fait prendre conscience de pas mal de choses, là. Et puis moi, vous voyez, quand vous dites notamment que, par exemple, un jeune qui va être à côté de ses parents et que les parents ne vont pas vraiment faire attention, il va y avoir comme une forme de frustration, et le gamin, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va aller sur sa tablette pour pouvoir compenser quelque chose, ou même ouvrir le frigo pour pouvoir manger et compenser, vous voyez. Et d'où l'intérêt, effectivement, de vraiment communiquer, de pouvoir échanger, parce que c'est essentiel. L'être humain a besoin de cela aussi. Et une autre notion aussi qui me vient en tête aussi, c'est justement, lorsque l'on fait une activité, je pense qu'on lâche des choses, on lâche des tensions, etc. On a besoin de cette régulation-là, physiologique aussi, pour pouvoir se trouver, je dirais, dans une hygiène de vie équilibrée. Alors, ce que je vais vous proposer, docteur, et à tous les auditrices et les auditeurs, eh bien, une musique un petit peu de transition, et juste après, on parle de votre livre, et puis notamment de votre conférence. On fait comme ça ?
Très bien.
Merci. À tout de suite.
À tout de suite.
Eh bien, bonjour pour les personnes qui viennent nous rejoindre sur Radio Sophia Attitude. En ce samedi 26 avril, il est 9h33, nous sommes en direct avec Dr Atala André, qui est donc cardiologue sur Basse-Terre, mais qui est connu et réputé, notamment sur la partie peut-être du diabète, de l'hypertension, et pas que. Et nous allons justement poursuivre notre conversation avec Dr Atala sur peut-être les conférences qu'il va mettre en place là prochainement concernant l'hypertension artérielle, le livre qu'il a écrit là dernièrement aussi. Donc nous avons dans un premier temps de l'émission parlé justement de ces maladies, l'hypertension artérielle, le diabète, comment ça se fait qu'à un moment donné on se trouve effectivement avec ce genre de maladie et surtout qu'est-ce que l'on peut mettre en place pour pouvoir trouver une hygiène de vie adaptée de manière à garder son capital santé. Alors, bonjour docteur Atala, rebonjour. Nous avons eu plaisir effectivement d'échanger donc sur tout cela. Qu'est-ce que vous souhaitez nous dire, nous partager peut-être, concernant peut-être la journée mondiale de l'hypertension artérielle, qui se fait quand, dites-nous?
Alors, chaque année, il y a une journée mondiale sur l'hypertension. C'est bien la preuve que cette problématique, comme je le disais tout à l'heure, elle est mondiale, puisqu'on a 1,5 milliard maintenant et demi de gens qui sont atteints par l'hypertension artérielle. C'est le principal facteur de risque cardiovasculaire, celui qui concerne 25 à 30% des adultes.
Ah oui.
Et il est organisé à travers le monde une journée de sensibilisation au grand public. C'est pas un congrès scientifique, c'est plus la partie du public le groupe Astea à Guadeloupe, en partenariat avec le GIPRASPEG, on se doit de faire des choses. Donc on aura là aussi, je pense, cette semaine-là, des interviews un peu comme on fait actuellement au niveau de la presse sur la problématique de l'hypertension artérielle. Donc un certain nombre de professionnels interviendront sur les ondes et nous allons faire une conférence grand public qui aura lieu le vendredi 16 mai.
D'accord.
À 18h, cette fois-ci, ça sera à Basse-Terre. Mais oui, les autres fois, je l'ai fait en Grande-Terre, j'ai déjà fait à Capesterre, en Grande-Terre, voilà.
Il y aura d'autres occasions.
Ça sera à la Maison du Carmel, la maison de quartier du Carmel. C'est une belle, c'est une maison de quartier où il y a de la place et qui est entièrement équipée. Mmh. Et alors, ce qu'on va faire de manière originale, au lieu de faire toujours la même conférence que je fais maintenant, une centaine de fois que je l'ai faite, avec un diaporama et autres. Mm-hmm. On a été d'innover et on a fait un petit film, alors avec les subventions de l'Agence régionale de santé que je remercie. Il y a également la mutualité Unie de France. Voilà, on a conçu une petite scénette, un film qui dure 18 minutes, qui est très très bien fait. Mm-hmm. Alors en fait, c'est une pièce de théâtre qui est en créole et sous-titré en français. Et dans cette pièce de théâtre, il y a plusieurs petites scènes où on explique ce qu'il faut savoir sur l'hypertension artérielle. Et donc, ça sert de starter, c'est-à-dire qu'on va passer ce petit film, et à la suite, qui s'appelle « En cas d'intention, qui veut dire ?» Je fais de l'attention, qu'est-ce que ça veut dire?
D'accord.
Comment vivre avec? Et à la suite de cette petite pièce de théâtre, qui est enregistré parce qu'on peut pas toujours avoir la troupe, c'est des professionnels, Guadeloupéen qui a été la pièce. Donc on l'a maintenant sur une petite clé USB et on la diffuse. Et à la suite de cette conférence, de cette scénette qu'on va présenter, il va y avoir un échange. Docteur Moussinga, cardiologue avec moi, sera là.
D'accord.
Et nous aurons aussi une démonstration de l'automesure. C'est quoi l'automesure? C'est se prendre sa tension artérielle soi-même. C'est fondamental. Quand vous êtes hyper tendu, pour connaître les vrais chiffres de votre tension artérielle, il faut réaliser ce qu'on appelle une automesure. Parce que quand vous allez voir le médecin, il y a souvent ce qu'on appelle l'effet blouse blanche. On a un peu peur, on attend, ça fait une demi-heure, une heure, deux heures qu'on attend, et il y a souvent un effet blouse blanche, c'est scientifiquement prouvé, et on a tendance, quand on franchit le cabinet du médecin, à avoir sa tension qui va augmenter d'un point ou deux. Donc, savoir vraiment quels sont ces vrais chiffres, c'est l'automesure. Prendre sa tension artérielle au repos, à la maison, 5 minutes le matin, 5 minutes le soir, après 5 minutes de repos, 3-4 jours avant de venir voir son médecin traitant, sur 3-4 jours d'affilée, 3 fois matin, 3 fois... On va l'expliquer tout ça, et l'infirmière, Mme Borgia, sera présente aussi avec nous, et qui fait partie également du groupe Astea Guadeloupe, elle va faire la démonstration pour expliquer aux gens comment prendre sa tension artérielle à la maison. Alors, concernant ce petit film, bien sûr, tout le monde ne pourra pas être à Basse-Terre ce jour-là, Oui. Nous avons eu un financement pour faire ce film avec l'ARS, l'Agence régionale de santé.
D'accord.
Il est gratuit, il est à la disposition de tout le monde. On n'est pas là pour faire, je dirais, du business. Ouais. Et donc, si vous allez sur le site HTAGWADA, c'est-à-dire grand, alors HTAGWAD.com, c'est le site du groupe HTA Guadeloupe, qui s'appelle HTAGWADA.com.
D'accord.
Vous avez ce film. Que vous pouvez télécharger et vous pouvez le voir, vous pouvez le passer lorsque vous avez une association de personnes,
oui.
Voilà, d'un cabinet médical, je sais pas, donc c'est tout à fait à la disposition de la population guadeloupéenne et vous verrez que c'est à la fois ludique, on rigole, mais on apprend beaucoup de choses.
Oui.
Voilà, on va le présenter, il va servir de support pour cette journée mondiale de l'hypertension artérielle qui est donc prévue à travers le monde le 16 mai.
D'accord.
Et nous, ça sera à Basse-Terre, donc à 18h le 16 mai.
Super, bien. Donc ça, c'est une première chose très très importante de se rappeler hein, de cette date, effectivement le 16 mai. Et j'aurais souhaité que vous parliez aussi de votre livre « Bouger, c'est bon pour la santé ».« Bouger, c'est santé ». Donc, si vous pouvez nous expliquer un petit peu, qu'est-ce qui a fait que vous avez voulu écrire ce livre ? Dites-nous un peu.
Alors, c'est un peu mon combat, moi, depuis des décennies. Hein. C'est-à-dire que, voilà, je suis cardiologue, médecin du sport, et on voit bien l'importance de l'activité physique. J'ai mis en place le centre de réadaptation cardiaque à l'époque. Ça fait maintenant 25 ans à Basse-Terre. On voit bien le bénéfice de l'activité physique. Et donc, nous avons mis aussi, à l'époque, quand j'étais conseiller régional, les parcours sportifs santé sécurisés, vous savez, les fameux P3S, que la région récemment a remis encore à neuf, hein, parce qu'il fallait les rénover. Je remercie le conseil régional pour ça.
D'accord.
Et surtout, cerise sur le gâteau, l'agence régionale de santé, que je remercie, nous finance des éducateurs sportifs formés en sport santé, qui deux fois par semaine sont là autour de ces P3S, ces parcours sportifs santé sécurisés, pour encadrer des personnes qui veulent faire de l'activité physique. Et donc, j'en parle dans le livre. Donc, c'est mon combat un peu depuis plusieurs années, comment dirais-je. Et donc, dans ce livre, c'est de manière très ludique et très pratique que j'explique. Alors, la première partie, c'est les méfaits de la sédentarité. Donc, j'explique de manière très simple que le fait de ne pas bouger, ben, vous avez plus de risques demain de développer un cancer.
Eh oui.
C'est prouvé scientifiquement.
Ah,
vous
oui.
avez plus de risques de développer des maladies cardiovasculaires, on l'a dit, par le biais des facteurs de risque. Vous avez plus le risque de vous retrouver moralement en mauvaise santé, parce que, voilà, bouger, il y a des effets, on n'aura pas le temps de l'expliquer, mais ça a été prouvé que faire de l'activité physique, ça libère un certain nombre d'hormones qui sont bénéfiques pour à la fois le système cardiovasculaire, le système immunologique pour éviter demain d'avoir un cancer, mais aussi sur le plan psychologique, il y a un bienfait qui est fait.
C'est
ensuite,
vrai.
Quand dans la première partie, j'explique les méfaits de la sédentarité, deuxième partie, eh bien, que faire pour pouvoir, dans les gestes de tous les jours, et non pas, je dirais, faire du sport de haut niveau, mais comment faire pour pouvoir faire une activité physique, à quelle dose, comment, quelle fréquence, de manière pratico-pratique, comment faire. Je parle un peu des P3S également du livre, parce que c'est une expérience qu'on a en Guadeloupe, parce que ce livre, il est maintenant à l'armatant, hein, il est publié un peu au niveau national, et donc s'il y a d'autres communes qui veulent mettre en place ces parcours sportifs comme la Guadeloupe l'a fait, parce que c'est un projet qui est labellisé PNNS, c'est le seul projet en Guadeloupe qui a eu un label Plan National Nutrition Santé, reconnu par le ministère de la Santé. Et à la fin, il y a un petit questionnaire qui s'appelle « Testez vos connaissances ». Donc si la personne n'a pas trop envie de lire, elle va commencer par voir les questions. Voilà, je suis hyper tendu, j'aime aller nager à la mer, est-ce que je peux aller nager ? Il y a des gens qui pensent que comme l'eau est salée, il ne faut pas y aller. Et là, je dis non, surtout, nager, c'est excellent comme sport, que ce soit en piscine, que ce soit à la mer. Et pour plus d'informations, allez à la page 13. Ça oblige la personne à relire et après, petit à petit, elle va se mettre à lire le livre, même si au départ, elle ne voulait pas tout lire.
D'accord. C'est en plus pratico-pratique. C'est génial,
voilà,
ça.
Tout à fait. Alors, on avait déjà fait une dédicace il y a à peu près un mois à Basse-Terre.
Oui.
Je me suis même retrouvé en rupture de stock. Donc
c'est vrai preuve,
oui. Donc, les gens sont intéressés par la thématique. Et on va s'organiser pour pouvoir faire une signature, je pense, en grande terre. On verra comment on s'organise.
C'est fait. Génial.
Après, il peut être commandé par l'Armatan. Hein. Vous allez sur le site de l'Armatan. Les gens peuvent aussi le... C'était par Internet, mais bon, c'est dommage de ne pas acheter sur place et avec une dédicace.
Tout à fait. L'occasion et le plaisir de vous voir et de partager aussi. Hein, on est bien d'accord. Hein, et effectivement. Et bien, tout ça, c'est vraiment super dans le sens qu'on s'aperçoit qu'on a quand même des outils pour pouvoir prendre soin de soi, hein, dans ce que je comprends. Hein, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont quand même prévues. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport au territoire de la Guadeloupe ? Est-ce qu'il y a des particularités ou des choses que vous-même, vous avez constatées et que peut-être que vous vous battez ou autre par rapport à tout ça ?
Alors, c'est vrai qu'on a tendance, on peut être un peu pessimiste. En Guadeloupe, on a toujours l'impression que rien ne va, que ça ne va pas, que ceci, que cela. Mmh. Alors, il y a une étude qui vient de sortir sur l'hypertension artérielle au niveau national, hein, le bulletin épidémiologique hebdomadaire, avec le professeur Blacher, que je connais, qui a fait une étude où il compare, on avait travaillé aussi dessus, sur l'hypertension artérielle, par exemple, Martinique, Guadeloupe, Guyane et l'Hexagone. Et ce qui est dit dedans, c'est qu'effectivement, de grands progrès ont été faits dans la prise en charge de l'hypertension artérielle.
Ah.
Il cite, entre autres, ben, le réseau acheté à Guadeloupe à l'époque, qui est au sein du CIPRASPEG, et que c'est ce type de structure, les P3S et tout, le réseau acheté à Guadeloupe, ça a effectivement aidé à l'époque.
Ah.
Et par exemple, ce qui est dit, c'est que le nombre de personnes en Guadeloupe qui disposent d'un appareil d'automesure, vous savez, pour prendre soi-même sa tension artérielle, sa sensibilité, en Guadeloupe, il est plus important que l'Hexagone. Nombre de personnes qui ont reçu des conseils de la part de professionnels de santé face à l'hypertension artérielle, avec les structures qui sont mises en place, les associations, les réseaux, tout ça et tout, il est plus important en Guadeloupe que dans l'Hexagone, des conseils de modification du mode de vie parce qu'on est hyper tendu, etc. Et tout. Donc, c'est voilà, de grands progrès, et c'est bien signalé parce qu'il y avait une même étude qui avait été faite il y a 20 ans, de grands progrès ont été réalisés en Guadeloupe, et sur certains chiffres, on est meilleur que l'Hexagone. Souvent, on a tendance à se dire, ouais, on n'est pas bon, on est ceci, on est cela.
D'accord.
Non, c'est bien expliqué puisque c'est la même méthodologie qui a été utilisée Martinique, Guadeloupe, Guyane et Hexagone.
Oui.
Et sur certains points, on voit qu'on a vachement progressé en 20 ans, mais il y a encore du boulot parce qu'il y a encore des patients, par exemple, qui sont hyper tendus, qui ne sont pas contrôlés ou qui sont hyper tendus, qui ne le savent pas. Donc, on a bien progressé par rapport à ce qu'il y avait il y a 20 ans, puisque la même étude, on l'a faite il y a 20 ans et on l'a refaite là. Mais il faut continuer à se dire, ben, on est sur la bonne voie et c'est ensemble qu'on va y arriver.
Oui, oui, bien sûr. Et quel petit conseil peut-être que vous pouvez donner pour le quotidien d'une personne, notamment sur l'alimentation ou sur son hygiène de vie et peut-être aussi les personnes qui n'ont pas vraiment conscience de cela ou des personnes que l'on connaît autour de soi.
C'est ça. Alors, il ne faut pas parler de régime. Je n'aime pas ce terme.
Parce d'accord.
Parler de régime, pendant 3 mois, vous allez faire un régime, vous allez vous serrer la ceinture et 3 mois après, vous allez tout reprendre.
Oui.
Il faut tout simplement moduler son mode de vie, se faire plaisir. On est face à une maladie chronique. Je prends un exemple. Un patient qui me dit, j'ai un médicament pour l'hypertension artérielle, mais il me fait gonfler les jambes, il me donne des maux de tête. Je dis, moi, à votre place, je l'arrêterai ce médicament. Je ne vais pas prendre le médicament pendant des mois que je ne supporte pas bien.
Oui.
Parlez-en à votre médecin, il va changer de famille. Vous avez 5 familles de médicaments. Si un médicament, par exemple un anticalcique, est mal supporté, c'est ça où il faut dialoguer avec son médecin en disant, je ne supporte pas bien, on va changer. On a la possibilité de trouver le traitement adapté et bien supporté. Ça, c'est une première chose.
D'accord.
Deuxièmement, faire de l'activité physique régulièrement, c'est l'équivalent de médicaments. C'est-à-dire qu'il y a les patients qui sont sous 2 traitements pour hypertension artérielle. S'ils font une activité physique régulièrement, on pourrait être amené, bien sûr, en contrôlant les chiffres de tension artérielle, à diminuer. Donc, l'activité physique, c'est l'équivalent de médicaments. Donc,
d'accord.
Encore une fois, c'est important de bouger parce que ça a un effet bénéfique sur l'hypertension.
Le mode de vie,
c'est se faire plaisir. Ce n'est pas dire, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça. On est face à une maladie chronique. Vous ne pouvez pas, comment dirais-je, pendant des mois et des années, dire à la personne, ne faites pas ci, ne faites pas ça, ne faites pas ça. Mais il faut tout simplement pondérer, comment dirais-je, ce qu'on fait.
L'alcool,
par exemple. Je me rappelle une fois, j'étais à une émission comme la vôtre, voilà, j'ai quelqu'un qui me dit, je me rappelle bien cette anecdote, bon écoutez, monsieur, je vous ai écouté, docteur, c'est très intéressant, je fais 1 heure d'activité physique par jour. Je ne suis pas trop gros, donc c'est important de ne pas être trop gros quand on est attendu. Je fais attention à ne pas manger trop salé, pas trop sucré. Voilà. Par contre, quand c'est un peu la fête à la maison, il y a un anniversaire, parfois ça m'arrive de prendre un petit punch ou un petit verre de vin.
Bon,
moi, je lui dis ce qui scientifiquement est confirmé. Je ne vais pas lui dire pas d'alcool, pas de sel, pas de sucre. Transpirer, il va finir déprimé. Donc, il faut adapter le langage à la réalité quotidienne.
Je lui dis,
écoutez, si vous avez tant en temps besoin de faire la fête, ce qui scientifiquement est dit, pour l'alcool par exemple, c'est pas plus de 1 ou 2 verres d'alcool par jour sur 4 ou 5 jours, pas plus.
Oui.
Donc,
oui.
Je n'incite pas à boire de l'alcool. Et juste après, une dame appelle et elle dit, comment ça se fait que le docteur dise qu'on peut boire de l'alcool? Non, je n'incite pas à boire de l'alcool, mais ce que je veux dire, c'est que il faut se faire plaisir, parce qu'on est face à une maladie chronique, ce n'est pas 5 jours d'antibiotiques, après on arrête, et donc on doit pouvoir adapter son mode de vie, se faire plaisir, mais ne pas exagérer. Vous
c'est
aimez
ça.
Tant en temps manger une petite pâtisserie,
oui,
mais pas la peine de manger 2 ou 3.
Vous
voulez manger, vous n'êtes pas obligé, je dirais, d'avoir l'assiette complètement remplie. Donc voilà, se faire attention. Et puis en termes de conseils, les hypertendus, on a été vraiment pionniers en Guadeloupe. L'automesure, c'est important. Prendre sa tension artérielle soi-même. Et nous, au niveau du groupe ASTEC, du GYP ASTEC, on fait des séances d'éducation où on informe les patients, on les éduque avec nos infirmières, comment utiliser son appareil d'autotensiomètre. Pourquoi ? Parce que les études ont montré que le fait d'avoir un appareil à la maison, on est plus sensible, on se prend mieux en charge. Et on se dit, oulala, ça fait 2 jours que j'ai arrêté le traitement. Il a raison, le docteur, parce que ma tension est remontée. Parce qu'on ne va pas aller chez le médecin tous les jours. Mais il ne s'agit pas de prendre sa tension tous les jours. C'est-à-dire, l'automesure, c'est, comme je l'ai dit, 5 minutes de repos, 3 mesures au matin, 3 mesures le soir, sur 3 à 4 jours. Par exemple, avant d'aller voir son médecin traitant, les noter et dire au docteur, chez moi, voici ma tension artérielle. Et ça, c'est important pour que le médecin modifie ou pas le traitement antihypertenseur.
Oui.
Et je rappelle les chiffres, c'est-à-dire que la tension artérielle, après 5 minutes de repos, elle s'exprime par 2 chiffres.
D'accord.
Le premier ne doit pas dépasser 140 et le deuxième ne doit pas dépasser 90. C'est 2. La première, c'est la systolique. Quand le cœur se contracte, c'est la plus haute tension. Elle ne doit pas dépasser 140 de moyenne au repos. Et la deuxième ne doit pas dépasser 90. Donc, c'est pour ça qu'on dit 140 et 90.
90.
Ou bien 14 nœuds. Et par contre, très important, en automesure, quand vous êtes chez vous, ça, c'est les études scientifiques qui l'ont prouvé, il ne faut pas que la moyenne de la tension artérielle à la maison, en automesure, il ne faut pas qu'elle dépasse 135 et 85, c'est-à-dire 13,5 et 8,5. C'est là où vous êtes protégé si votre tension est égale ou inférieure à 135 pour la première tension et 85 pour la deuxième. Vous protégez vos artères sans le savoir.
D'accord, bien. Ben dites donc, merci beaucoup pour ces précieuses informations, déjà dans un premier temps, docteur. Et puis aussi tout ce qu'on a pu aborder là ensemble pendant un petit peu moins d'une heure. C'est très très important effectivement de pouvoir peut-être apporter un éclaircissement sur différents plans concernant le quotidien. Et ce que je retiens aussi, c'est cette notion d'équilibre, de garder en tête cette notion d'équilibre qui nous permet de pouvoir garder cette santé à long terme. En tous les cas, un grand merci vraiment, docteur Atala André, pour votre intervention ici en direct sur RSA. C'est toujours un grand plaisir et on aura certainement d'autres occasions peut-être de pouvoir échanger encore sur d'autres sujets, bien entendu. Un petit mot de fin peut-être ?
Oui, mais déjà vous dire que voilà, j'accepte volontiers à ce type d'émission parce que c'est par le biais de radio de faire passer des messages comme ça et ça sensibilise les gens. Donc votre rôle aussi est important et bravo pour justement toucher du monde, faire passer ce message. Voilà, il n'y en a jamais assez et donc plus assez. C'est pour ça que j'accepte volontiers moi de répondre à ces interviews parce que c'est pour la bonne cause et vous faites partie de ceux qui vous battez pour la bonne cause, passer des bons messages de santé publique, c'est important.
Bien, merci en tous les cas pour cet enthousiasme. Merci aussi pour ce temps que vous consacrez. C'est des personnes comme vous, c'est très important pour la planète aussi. Merci à vous. Nous allons donc passer quelques pages de publicité et on se retrouve juste à la fin pour la fin de notre émission parce que ça passe très vite. Il est 9h51 sur Radio Sophia Attitude.